Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec l'épisode de la reprise. Reprise après quelques semaines d'arrêt pour cet été 2021 qui m'ont fait le plus grand bien et qui ont bien nourri ma créativité pour te proposer tous les épisodes qui vont sortir là en fait jusqu'à fin 2021 pour accompagner cette fin d'année, ce dernier trimestre, même si on a encore un peu de temps quand même, mais voilà. Avec des belles interviews qui arrivent, également des épisodes solo avec des sujets en tout cas qui m'ont paru fort intéressants, j'espère qu'ils t'intéresseront également. Aujourd'hui pour cet épisode de la reprise, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler des 5 points pour bien accompagner un client. Donc cet épisode s'adresse à tous ceux parmi vous, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, tous ceux qui sont accompagnants, c'est-à-dire consultants, coachs, thérapeutes, travailleurs sociaux, pourquoi pas, etc. Donc même les graphistes, les consultants en communication, etc. Puisque tous ces métiers-là, en fait, ce podcast s'adresse à toutes les personnes qui accompagnent un client d'un point A à un point B. Un être humain. Et dans ce podcast, dans cet épisode, je vais te partager 5 points pour bien, entre guillemets, accompagner un client ou une cliente. Alors, l'objet, tu t'en doutes, si tu connais déjà bien ta boîte, sinon je vais te l'expliquer, c'est que en septembre sort la deuxième promo du programme pour les accompagnants. Donc c'est un programme que j'ai créé, qui a déjà, c'est sa deuxième édition, il a déjà été testé et éprouvé une première fois, qui s'appelle Trouver ta posture d'accompagnant et qui justement permet aux accompagnants, consultants, coachs, thérapeutes, j'ai des graphistes, j'ai des business managers, j'ai beaucoup de consultantes, des coachs, etc., de travailler leur posture d'accompagnant. Donc, je te mets dans la description le lien vers la page du programme, si tu veux aller voir, si tu as la curiosité, ça t'intéresse. On peut tout à fait convenir de s'appeler, hein, tu verras, c'est écrit sur la page, pour échanger, si tu es intéressé par le programme et que voilà, tu as des questions, tu sais pas trop, ça pourrait te convenir. Je tiens juste à préciser que le nombre de places est très limité pour le programme. Je ne prends que 12 personnes, sachant que à l'heure où je t'enregistre cet épisode, c'est-à-dire début août, il y a déjà 5 places qui sont parties alors que le lancement n'a pas commencé. Donc, clairement, je ne sais pas au moment du 24 août où j'en serai, mais si tu es intéressé pour attaquer avec la promo qui attaque là le 20 septembre et qui se termine du coup en décembre, on en a pour 3 mois, je t'invite à aller faire un petit tour sur la page qui est dans la description. Bueno, pourquoi c'est important cette histoire de posture? Être un accompagnant, quand on accompagne un être humain, c'est une très très grande responsabilité. Okay. Accompagner, qui est littéralement aller vers ensemble, c'est une grande responsabilité. Moi, comme tu le sais peut-être, je travaille en approche holistique et humaniste, c'est-à-dire que je travaille en approche holistique avec ce qu'on appelle le modèle PMES, donc physique, mental, émotionnel, spirituel, et dans le, je m'intègre dans le courant humaniste, c'est celui psychologiquement avec lequel je m'entends le mieux, si je pourrais dire ça comme ça, et donc celui aussi que je transmets ici dans cet épisode et dans la formation. Donc, qui présuppose plusieurs choses dans notre posture. Déjà, l'accueil positif inconditionnel, c'est-à-dire notre capacité en tant que praticien, qui que nous soyons, à accueillir de manière inconditionnelle tous les clients et ou patients que nous recevons. L'empathie. L'empathie, littéralement, qui n'est pas la sympathie, qui est vraiment notre capacité à nous mettre à la place de l'autre et à percevoir la situation et la problématique à travers ses yeux, en mettant ses lunettes, c'est-à-dire en regardant la situation avec ses normes, sa culture, ses croyances, etc. Et la congruence, la congruence qui est vraiment cette capacité du praticien à être congruent, congruente, avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il verbalise, ce qu'il émet en langage non verbal et ce qu'il perçoit de son client. Donc, mes 5 points que je vais t'évoquer dans ce podcast. Petit 1, je vais détailler bien sûr, pour bien accompagner, il faut travailler sa posture. Pourquoi je casse les pieds à tout le monde avec cette histoire de posture? Le deuxième truc que je vais évoquer, c'est le fait qu'il y a des bases à connaître qui sont indispensables si on veut bien accompagner quelqu'un. Le troisième point que j'analyserai, c'est la question de réussir l'analyse de la demande d'un accompagnement. Quatrième point, les relances, savoir relancer un client. Et le cinquième point qu'on évoquera, bien entendu, c'est le travail sur soi et la nécessité d'avoir un regard extérieur sur soi. Donc, avant d'attaquer mon premier point, je me permets juste de te demander, si ce fût possible, si tu connais mon podcast, que tu l'aimes bien ou si l'épisode te plaît, que tu es sur iTunes, de laisser 5 étoiles ou un commentaire, par exemple, sur Apple Podcast. Déjà, ça m'aide à faire connaître le podcast, mais surtout, ça me fait très très plaisir d'avoir vos retours sur le podcast. Je lis bien sûr chacun des commentaires. C'est pas très pratique sur iTunes parce que je ne peux pas vous répondre messager que je les lis et que ça me fait très très plaisir. Ou pourquoi pas transmettre cet épisode à un collègue accompagnant à toi qui pourrait être intéressé par cet épisode. Bueno, premier point. Pour bien accompagner, il faut absolument travailler sa posture. Pourquoi ? Pourquoi je casse les pieds avec ça ? Parce que la posture, c'est justement c'est le pourquoi. La posture, c'est le pourquoi, c'est l'intention qu'on met dans son accompagnement. Les outils, c'est comment ? Alors bien sûr, les outils, c'est important, mais les outils, c'est secondaire. Travailler sa posture en tant qu'accompagnant, que professionnel de la relation d'aide, professionnel de l'accompagnement, travailler sa posture, ça permet de s'ancrer dans son travail d'accompagnant, ça permet bien sûr de se protéger, bien sûr. Ça permet de savoir réceptionner, ça permet de ne pas être déstabilisé, ça permet d'offrir le meilleur à nos patients slash clients, parce qu'ils doivent, à mon sens, rester la priorité du travail. C'est la base du travail de l'alliance. Ok, l'alliance qu'on construit, l'alliance de travail qui se fait entre le praticien et le bénéficiaire, la base de cette alliance, c'est ta posture d'accompagnant. Or, c'est pas moi qui le dis, c'est que les études montrent bien que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue justement dans l'alliance. Donc, clairement, les outils, c'est minoritaire, c'est vraiment secondaire, c'est 20% du taf. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir d'outils, clairement, mais c'est secondaire. La posture, elle, par contre, elle est indispensable pour créer de l'alliance. La posture, l'intention que je mets en tant qu'accompagnant, ça, j'ai envie de dire c'est la base, mais c'est même pas que c'est la base, c'est que c'est 80% du taf. Deuxième point, pour bien accompagner, il y a des bases à connaître. Comment je peux accompagner un être humain sans savoir un minimum comment fonctionne un être humain ? Ça paraît évident, et pourtant, bah c'est pas toujours le cas. Je suis désolée si tu entends ronfler, c'est Gaïa derrière, mon bosseron, qui rouspète parce qu'apparemment, enregistrer mon podcast l'empêche de faire sa sieste. Donc, pour moi, il y a des bases de psychologie qui sont indispensables à connaître. Les émotions, la personnalité, les croyances. Comment on peut accompagner un être humain si on ne connaît pas un minimum de choses là-dessus ? Pour moi, il y a des bases d'énergétique aussi qui sont indispensables, tout du moins quand on veut travailler en approche holistique, puisque je te prends un exemple pour que ce soit très concret. La problématique du stress, par exemple, qui est un truc très, très, très courant, malheureusement, que en tant qu'accompagnant, tu as sûrement déjà eu à traiter, ou en tout cas, même si c'est pas ton rôle premier, parce que peut-être que tu es consultante en com, donc ok, t'es peut-être pas spécialisée sur le stress, mais le fait est que ton client ou ta cliente, c'est des problématiques qu'ils vont rencontrer. Même si toi, tu fais pas la prise en charge parce que tu renvoies vers des confrères psy ou je ne sais quoi, si toi t'as pas les bases de c'est quoi le stress, comment ça marche dans le corps physique, comment ça marche dans le corps émotionnel, quelles sont les croyances que mon client ou ma cliente peut éventuellement entretenir dans sa tête et qui pourrait peut-être générer ces situations de stress, etc., etc. Bah, d'une, tu vas être limité. Et de deux, si tu veux travailler en holistique, par exemple, avoir une approche énergétique va te permettre de dire, ok, est-ce qu'on est peut-être sur de la peur ? Et en quel cas, on est plutôt dans le premier centre énergétique. Est-ce qu'on est plutôt sur un manque de confiance en ses capacités et en soi, et donc on est plutôt sur le troisième centre énergétique ? Est-ce que, je sais pas moi, on est sur une difficulté à avoir une vision, par exemple, sur le long terme, et donc du coup, en fait, ton client, il se met à stresser parce qu'en fait, il n'arrive pas à avoir une vision de sa communication, il n'arrive pas à visualiser ses objectifs. Bon, ça, énergétiquement, on pourrait déjà aller voir sur le sixième centre énergétique ce qui se passe. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment des bases qui sont à connaître et qui peuvent vraiment tout changer, en fait, dans un accompagnement, et qui vont te permettre d'avoir une approche globale de ton client, de ta cliente, et d'être beaucoup plus en précision. Parce que du coup, peut-être qu'au lieu de lutter en disant à ta cliente, mais si, je te dis qu'il faut faire ça sur Instagram ou je ne sais quoi, tu vas peut-être te dire, ok, quel est le problème sous-jacent ? Ah oui, ok, en fait, je comprends que de ce qu'elle me dit, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de vision, elle a du mal à se projeter, donc tiens, pourquoi il y a une difficulté à se projeter ? Est-ce que les valeurs sont claires, par exemple, pour l'aspect plutôt mental ? Est-ce qu'il y a de l'évitement émotionnel pour l'aspect émotionnel ? Est-ce qu'il y a un déficit sur le sixième centre pour l'aspect plutôt énergétique, etc., etc. Donc voilà, ça va te permettre de faire des lectures de plus en plus globales de tes clients et te permettre, toi aussi, bien sûr, de réorienter, de savoir réorienter et de mieux travailler en pluridisciplinarité avec tes collègues. Parce que si t'as pas les bases de psy, par exemple, comment tu fais pour réorienter vers le bon psy ? Vous avez 4 heures pour réfléchir à ça. Le troisième point pour bien accompagner un client, à mon avis, c'est de savoir réussir l'analyse de la demande. Donc l'analyse de la demande, qui, comme son nom l'indique, hein, est le fait d'analyser la demande de travail que ton client, enfin que ton prospect plutôt, va te faire avant de passer au travail. Ça prend la forme d'un appel découvert très souvent, mais bref, il y a un échange. On fait l'analyse de la demande. Une analyse de demande ratée, c'est un accompagnement qui est voué à être à côté de la plaque. C'est super important l'analyse de la demande, parce que l'analyse de la demande, c'est le moment où toi, en tant qu'accompagnant, tu vas pouvoir ce qu'on appelle faire le tour de l'écologie du problème. Ça te permet de voir concrètement quel est le problème, pour qui c'est un problème, quand est-ce que c'est un problème, quand est-ce que ça ne l'est pas aussi. Et en fait, cette analyse de la demande, elle te dit déjà plein de choses. C'est ici, dans le programme par exemple, que je vais vous aider à développer votre compétence d'écoute active si vous en avez besoin, parce que là, cette compétence d'écoute active, elle doit d'ores et déjà permettre aux praticiens d'être à l'écoute et donc de savoir déjà identifier des forces, des valeurs, où est le focus attentionnel du client, par exemple, etc., etc. Donc, il y a plein de choses dans cette analyse de la demande qui peut nous être donnée. Bien sûr, c'est là qu'on peut distinguer la demande explicite versus la demande latente. Je te donne un exemple très, très concret. Moi, tu sais, j'accompagne des entrepreneurs dans leur bien-être au travail, donc j'ai très, très souvent la question de la procrastination, par exemple, en appel découverte. La procrastination, de mon expérience, est très, très rarement un problème d'organisation. 95% du temps, on est sur un problème émotionnel, okay, d'évitement émotionnel, même si, bien sûr, il y a une traduction énergétique à ça. Donc, la demande explicite, c'est « Laura, j'ai besoin de toi parce que je procrastine ». La demande latente, mais ton client n'a peut-être pas le formulé comme ça, ton prospect n'a peut-être pas le formulé comme ça, c'est « il y a de l'évitement émotionnel ». La demande, l'analyse de la demande permet aussi d'évaluer si on est sur une demande qui correspond à ton accompagnement, en quel cas c'est formidable, ou est-ce qu'on est sur une demande inexistante, une demande ambivalente ou une demande diffuse. Donc bon, on verra tout ça en formation, mais déjà pour te donner une idée, parce que ça c'est un truc que je retrouve souvent chez les participantes ou les participants au programme. Ah ben Laura, j'ai eu tel prospect, machin, mais en même temps il veut ça mais il veut pas faire les efforts. Demande ambivalente, ok ? Ça, c'est l'exemple typique, et ça, dans l'analyse de la demande, on doit pouvoir l'identifier tout de suite pour que ça ne te pète pas à la tronche en séance 3, séance 4, séance 7 avec quelqu'un qui, par exemple, va te dire que, je sais pas moi, l'exemple typique, je veux changer de business, je veux changer de vie, je veux changer d'alimentation, mais je veux pas faire d'efforts. Bon, du coup, là, on va avoir un petit problème, tu vois. La demande diffuse, qui est plutôt l'exemple du prospect qui... il veut un peu tout faire et il sait pas concrètement, voilà, donc la demande diffuse c'est un peu, je suis un peu perdue et puis je voudrais changer plein de choses dans ma vie, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux changer? Je sais pas trop, mais il y a plein de choses qui pourraient être changées, bon voilà, tu vois, la demande est diffuse quoi. La demande inexistante, ça arrive aussi, ça arrive pas souvent mais ça arrive, où en fait on se rend compte au bout de l'analyse de la demande qu'il n'y a pas une réelle demande d'accompagnement ou pas de ton accompagnement. Voilà, mais que ça relèverait d'un autre professionnel. Donc l'analyse de la demande, c'est vraiment très très important. Tu peux pas réussir ton accompagnement avec ton client si l'étape zéro, qui est l'analyse de la demande, elle est foirée pour X ou Y raison. Donc ça, c'est vraiment très important. Quatrième point, il faut savoir relancer pour bien accompagner son client. Comme je l'ai dit au début, on a une grande responsabilité quand on est un professionnel de l'accompagnement. Les gens nous font confiance. On a la santé des gens entre les mains. Alors pas forcément la santé physique, hein, mais une partie de leur santé. Et donc, on a une grande responsabilité. C'est pas un métier qu'il faut faire comme ça, en disant « Ah, c'est bon, j'ai envie d'accompagner les gens. Paf, je vais accompagner les gens. » Il y a des choses avec lesquelles il faut faire attention. Et par exemple, relancer le client, ça s'apprend. Il existe plein de techniques de relance, comme l'écho, le jeu de la naïveté, la reformulation, on a plein de techniques. Il n'y a pas de baguette magique. Dans le fait de savoir relancer quelqu'un, il faut beaucoup s'entraîner, mais connaître les relances, connaître quelques principes, c'est quand même important pour pas faire des relances qui tombent à côté de la plaque, par exemple, même si on en fait tous, mais le moins possible, pour ne pas braquer le client, pour maintenir l'alliance qu'on a créée avec lui, puisque on a vu au début de ce podcast que ça, c'est 80% de la réussite de mon travail. Donc, si tu veux que ton client, il soit satisfait, qu'il soit content, eh ben, 80% de ça, ça se joue dans l'alliance que tu crées avec lui. Donc, si tes relances, elles sont des fois un peu dures, si elles manquent d'empathie, si ça manque de congruence, si ça tombe à côté de la plaque, si tu t'empêtres, ça, je peux le voir des fois dans les participantes à la formation qui vont de relance en relance sans forcément avoir un but très clair de où est-ce que je vais avec ces relances-là. Et donc, pour le client, ça peut donner l'impression que on sait pas trop où on va, qu'on pose plein de questions, qu'on n'est pas très sûr de nous, etc. Donc voilà, c'est très important. Et puis, pour éviter, bien sûr, les pièges récurrents, concrètement, pour donner un exemple, les questions en pourquoi. Alors, le client ou la cliente qui va te dire... qu'elle se sent pas bien actuellement dans son business. Elle se sent pas bien dans son business parce que elle attire que des personnalités qui lui conviennent pas, par exemple. Si là, tu commences à dire pourquoi, selon toi, tu attires des personnalités, le piège, c'est que déjà, tu peux sortir de la posture parce que tu vas te mettre à investiguer des choses. Il faut savoir, tu vas faire quoi de la réponse, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a des pièges comme ça où des fois, bon après ça arrive à tout le monde de foirer des relances, hein, mais des fois, si on n'est pas un peu vigilant sur les relances, on peut s'empêtrer. On peut s'empêtrer, tu vas aller dans le pourquoi et tu vas commencer à plus t'en sortir, ah, bah, te commencer à parler de son enfance, bah, pourquoi, parce qu'en fait, quand j'étais petite, machin, oh là là, et là tu vas peut-être, en tout cas, plus savoir comment te dépêtrer du truc. Donc relancer, c'est très important. Le dernier point que je voulais évoquer avec toi sur la cinquième chose qui permet, entre guillemets, de bien accompagner, c'est le fait, évidemment, de travailler sur soi en tant qu'accompagnant et d'avoir un regard extérieur sur soi. Pourquoi je dis ça? Puisque, évidemment, encore une fois, on a une responsabilité en tant qu'accompagnant et que tu viens, toi aussi, dans ce cadre de travail avec tes propres croyances, ton propre passé, tes propres expériences, tes propres éventuels traumas et les projections que tu peux faire. Donc, forcément, il va y avoir des cas clients qui vont plus résonner avec toi, qui vont faire écho peut-être à ton passé, à tes difficultés passées ou tes difficultés actuelles. Et là, c'est là tout le travail de la posture, hein. C'est d'arriver à ne pas projeter tes propres tracas, entre guillemets. Toutes ces questions hein, que les participantes peuvent avoir dans le programme. Comment je fais les jours où je suis pas bien? Comment je fais quand, je sais pas, moi j'accompagne quelqu'un qui est en difficulté de couple et que moi-même j'ai une difficulté de couple? Comment je fais quand la personne me raconte quelque chose qui est vraiment très difficile et que j'arrive peut-être pas à le réguler, que je pourrais avoir tendance à projeter, etc. Donc évidemment, le travail sur soi, il est très 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 important. Le deuxième truc que je voulais évoquer dans cette partie-là, c'est le fameux syndrome du sauveur. Quand on est accompagnant, en tout cas dans ma vision, on n'est pas un sauveur. On est un cocher, hein, au sens de l'étymologie du coach, cocher, qui connaît la route la plus adéquate pour amener des voyageurs d'un point A à un point B. Donc le coach, c'est celui qui connaît des outils et des méthodes qui lui paraissent les plus appropriées, les plus pertinentes pour amener le client du point A au point B. C'est pas un sauveur. C'est pas quelqu'un qui, je sais pas moi, qui dont tu as besoin aussi. Ça, c'est très important. En tout cas, moi, dans mon programme, c'est très important de viser l'autonomisation des bénéficiaires. Donc voilà, ça, c'est un truc très important. Pourquoi on est accompagnant? On vient quand même tous jouer une part de nous hein, dans ces métiers-là, très souvent. Et je pense que c'est très important d'avoir travaillé sur soi, voilà, de pas être dans ce syndrome du sauveur. Tu vas pas sauver l'humanité. Le gros, gros, gros travail de l'ego quand on est un accompagnant. En tout cas, moi, je trouve que c'est très important de... Tu vas avoir des retours très, très positifs, des gens qui vont te remercier, c'est formidable. Il faut avoir la place pour accueillir ça, c'est très important que cette énergie d'accueil soit là. Et en même temps, je crois qu'il faut pas que ça nourrisse notre ego. Je le crois sincèrement. Parce que si ta mission, c'est de te mettre au service de ces gens-là, voilà, c'est pas pour que l'ego en profite pour s'enorgueillir de « oui, je suis absolument formidable, je change tout dans la vie des gens ». Non. Les gens, ils changent des choses dans leur vie. Et toi, t'as peut-être été un catalyseur, t'as apporté des outils, t'as apporté des méthodes, mais le job, c'est eux qui le font. Ça, c'est un exemple sur le syndrome du sauveur, hein, mais évidemment, on peut retrouver plein d'autres problématiques dans la posture d'accompagnant, mais en tout cas... Je pense que c'est très important aussi de faire ce travail sur soi bah, pour ne pas trop polluer en tout cas nos séances avec nos clients et nos clientes. Voilà tout ce que je voulais te dire. Combien de temps j'ai fait? Ah ça va, 19 minutes, c'est pas si long que ça, j'avais peur que ce soit vraiment très très long. Je pourrais dire évidemment plein d'autres choses sur la posture d'accompagnant, mais... Deux choses. La première, c'est que début septembre, il va y avoir donc la semaine de lancement du programme qui aura lieu du 6 au 10, là, du 6 au 10 septembre. Donc, cette semaine-là, qui ne t'engage à rien, c'est une espèce de mini formation qui sera gratuite. Tu as le lien de partout, là, dans la description, pour t'inscrire et profiter déjà de cette semaine d'immersion. Dans cette semaine-là, tu vas recevoir 5 mails, un mail par jour pendant 5 jours, du lundi au vendredi, avec 2 lives, où je vais te donner des conseils, des études de cas, des petits exercices, voilà, sur la question de la posture d'accompagnant. Et puis, évidemment, tu t'en doutes, à la fin de la semaine, il y aura évidemment un appel à l'action pour rejoindre le programme pour les accompagnants, pour celles et ceux qui voudraient partir dans le programme. Mais même si tu veux pas suivre le programme, tu pourras sans problème suivre cette semaine d'immersion dans le programme, où voilà, on va aller par exemple sur la question de l'analyse de la demande un peu plus dans le détail, reparler de l'alliance, on va parler de l'holistique, on va parler de plein de choses. Voilà, J'espère que ce podcast, malgré tout, t'aura apporté voilà, des clés, ou en tout cas peut-être initié des réflexions sur cette posture d'accompagnant qui est absolument merveilleuse, qui est un métier formidable et que je crois qu'il faut faire avec beaucoup de conscience et de justesse. On fait tous du mieux qu'on peut avec l'énergie, le temps qu'on a, mais c'est toujours très important de remettre en question, je pense, notre pratique. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit coucou en commentaire, ou même venir m'en parler sur Instagram ou autre. Je suis toujours contente de savoir que les épisodes vous ont plu. J'espère que ça t'a apporté. J'espère te croiser à la semaine d'immersion du 6 au 10 septembre, et pourquoi pas te retrouver lors du programme pour les accompagnants. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.